Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour la 100e de Culture Média et on a décidé de marquer le coup pour la 100e. On va rien faire, c'est ça la surprise. Au menu, 2 heures de médias et de culture, vous n'étiez pas prévenu.
Mais non,
c'est ça une surprise. Si vous le saviez, c'était plus
c'est
une surprise.
Bon anniversaire.
Au menu, merci, 2 heures de médias et de culture au sens large avec le journal des médias, le journal de la culture, des conseils de lecture et les expos de 2020 à ne pas manquer. Notre info média, c'est en Angleterre, le Mexit qui a éclipsé le Brexit, le Mexit, contraction de Meghan et Exit, c'est le couple princier Harry et Meghan qui a annoncé qu'il voulait s'émanciper de la famille royale et se mettre à travailler. Et ça fait scandale dans la presse. Or, c'est justement pour fuir la presse qu'ils veulent partir. On va tout vous expliquer avec Philippe Turle, journaliste britannique, et Jérôme Caron de Point de Vue, spécialiste de Buckingham. Nos invités ensuite, Pascal Perry, il présente depuis la rentrée sur LCI le Périscope, de 20h à 21h du lundi au jeudi, et ça marche. On va lui demander s'il sait quoi faire pour rattraper BFM en audience, puisqu'il en vient. Enfin, Bérangère Krief, comédienne et humoriste, découverte dans la série Bref, on l'a vu avec Dussolier dans Adopte un veuf, et là elle se lance dans un nouveau seul en scène, ça s'appelle Amour, et à ce propos, elle raconte son mariage annulé. Tu parles des conseils. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel. Bonjour à tous.
Et alors, comme tous les jours, on va commencer par les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télé? Bonjour Lise Pressac.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Pierre Desroux est en week-end à l'infirmerie aux Seychelles. On l'embrasse, donc c'est vous qui vous collez aux audiences, si j'ose dire. Allez-y.
Voilà, et bien ils ont regardé TF1, les Français, 5 887 000 spectateurs étaient devant la série événement Peur sur le lac. Un programme où l'on retrouve Julie Debonat et Lannick Gautry. Julie Debonat qui était à ce micro hier. Et pour ce premier épisode, les téléspectateurs ont eu le droit à une intrigue originale où une épidémie mortelle frappe la ville. Ça représente une part d'audience de 26%. Alors, deuxième place pour M6, avec la série événement FBI, une vision réaliste et passionnante de la police américaine, et qui s'appuie donc sur des enquêtes. 2 431 000 personnes étaient devant M6 hier soir. Et une troisième place pour France 2, avec l'émission politique Vous avez la parole, présentée par Léa Salamé et Thomas Soto. Ça fait 1 672 000, 8,8% de part d'audience. Il faut comparer les chiffres avec les précédentes émissions. Ils étaient en octobre à 1 020 000 et à 2 019 000 le 5 décembre pour la dernière émission Vous avez la parole.
Ouais, et donc gros carton pour TF1 et Julie Debonat, qui, elle l'a annoncé hier, sera dans 2 semaines dans notre équipe.
Exactement.
Puisqu'elle sera la stagiaire d'Hélène Manarino.
Elle vient de signer sa convention,
pour un prochain rôle, exactement. Et puis maintenant, c'est le journal des médias, Lise.
Oui, il y avait un petit
allez-y, pardon, un petit million,
un petit million, voilà, 1 100 000 pour TPMP. Et 1 048 pour Le Pacha sur W9.
Les audiences de la conférence de presse de Carlos Ghosn, LCI a battu BFM.
Et oui, alors que d'habitude sur ce genre d'événement en direct, BFM TV arrive en tête des chaînes d'infos. Cette fois, c'est LCI qui est leader. La chaîne du groupe TF1 a attiré en moyenne 441 000 téléspectateurs entre 14h01 et 16h24. BFM TV arrive ensuite avec 354 000 personnes avant CNews et France Info. Et selon le site Pure Média, qui s'est procuré les audiences détaillées de mercredi après-midi, LCI peut dire merci à Jean-Pierre Pernaut, le présentateur du 13h de TF1, a en effet conclu son JT à 13h31 en appelant les téléspectateurs à passer sur LCI. Résultat immédiat, plus 220 000 téléspectateurs en 10 minutes, alors que la conférence de presse n'avait même pas encore commencé. Et c'est à peu près le même nombre de personnes que va perdre BFM TV suite au bug de traduction dont on parlait hier dans ce journal. À 14h02, quand Carlos Ghosn prend la parole, la chaîne est leader devant LCI. Mais en l'espace de 3 minutes, elle perd plus de 200 000 personnes, quand LCI en récupère 92 000.
Aujourd'hui, à 12h45 et 19h45, c'est M6 qui devrait attirer de très nombreux téléspectateurs avec l'interview de Guy Joao.
Celui qui avait été pris à tort pour Xavier Dupont de Ligonnès à l'aéroport de Glasgow en octobre dernier, on s'en souvient, a accepté de s'exprimer dans une interview télévisée. Des extraits vont être diffusés ce jour dans le 12h45, puis dans le 19h45, accompagnés de sujets qui reviennent sur cette énorme méprise. Alors, obtenir l'accord de Guy Joao a été un travail de longue haleine, explique à Pure Média François Vignol, responsable du pôle enquête police-justice à M6. C'est lui déjà qui, en décembre dernier, avait réussi à obtenir les premiers mots de Guy Joao 2 mois après les faits.
Et puis cette fois, Lise, c'est pas un record d'audience, mais un record d'enchères qui a été réalisé dans Affaires conclues, l'émission justement d'enchères.
Exactement. Tristan est venu de Nîmes pour vendre un centre de table en bronze doré réalisé par le bronzier et sculpteur Pierre-Philippe Thomire, qui a réalisé des surtouts de table pour Napoléon Bonaparte. Ouais. Alors les surtouts de table, c'est les centres de table.
Bien sûr, on en parlait ce matin à la machine à café.
Tristan pensait que son objet valait 1000 euros. L'expert l'estime à 7000, mais les enchères décollent.
Voilà, 10 000, moi j'y suis. Est-ce que vous voulez faire une affaire conclue à 10 000?
Personne d'autre? Pierre-Jean?
15 003.
15 004.
15 005.
15 006.
16 000.
16 002.
16 5.
C'est pour toi.
Merci.
16 500 euros, un record historique pour l'émission de Sophie Davant diffusée depuis la rentrée 2017. Le record précédent était de 12 500 euros, c'était pour une sculpture de lion.
Je rigole parce que je vois la tête de Céline Dacosta, elle fait une tête.
J'ai envie de voir à quoi ça ressemble, ce truc quand même.
Le prix n'est surtout de table, alors qu'elle vient d'en mettre deux à la déchetterie, elle regrette.
Ça devrait coûter, Céline.
Blague à part, ça devrait coûter un peu plus cher à HBO. Oui. La chaîne américaine prépare une adaptation du film Parasite.
Oui, Bong Joon-ho, le réalisateur du film qui a remporté la Palme d'Or à Cannes l'année dernière, travaille sur ce projet avec Adam McKay, réalisateur de la série Succession qui vient de remporter un Golden Globes. Alors on ne sait pas si ce sera une suite ou un remake du film sud-coréen, mais ce projet de mini-série était très convoité. Netflix était également sur les rangs, mais c'est donc HBO qui a remporté la bataille.
Et puis pour finir, vous nous parlez d'un documentaire consacré aux Premières Dames.
Oui, pour la première fois réunies dans un même documentaire, Anémone Giscard d'Estaing, Cécilia Attias, Carla Bruni-Sarkozy et Valérie Trierweiler. Elles racontent leur vécu, l'accession au pouvoir, ce moment où la vie privée cesse de l'être, et ce destin présidentiel qu'elles n'ont pas choisi.
C'était pas du tout un rêve d'arriver à l'Élysée, c'était inimaginable. On peut pas rêver des choses qu'on n'imagine jamais.
Dès le soir de l'élection, je comprends que la vie privée n'existe plus. Qu'on devient privé de vie. Ça se passe dans la seconde même de l'annonce du résultat.
Ces 7 ans ont été une période passionnante, très intense. Heureuse, je n'en suis pas tellement sûre.
Est-ce que j'étais un personnage romanesque? J'étais la première à partir et à quitter le pouvoir par amour? Après tout, pourquoi pas?
Vous avez entendu dans l'ordre Carla Bruni-Sarkozy, Valérie Trierweiler, Anémone Giscard d'Estaing et Cécilia Attias. Donc, le documentaire s'intéresse à 9 femmes de présidents, d'Yvonne de Gaulle à Brigitte Macron, en passant par Claude Pompidou, Daniel Mitterrand et Bernadette Chirac. Et avec le temps, pas sûr qu'elles aient gagné en indépendance. Écoutez Valérie Trierweiler, ancienne compagne de François Hollande.
Je pense que les premières dames d'avant avaient beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de possibilités. Si je reprends l'exemple de Daniel Mitterrand, qui pouvait se permettre de faire des choses, de rendre visite à Fidel Castro, d'accueillir Nelson Mandela à Paris avant même que le président ne le reçoive. Elle était surnommée l'emmerdeuse. Mais quelle emmerdeuse !
Le documentaire raconte comment chacune de ces 9 femmes a tenté de se faire une place à l'Élysée, d'entrer ou non dans un moule, et comment elles ont parfois été plus que les simples épouses d'eux. Cécilia Attias, qui s'appelait encore Sarkozy à l'époque, raconte ainsi comment elle est intervenue auprès du colonel Kadhafi pour faire libérer 5 infirmières bulgares et un médecin palestinien emprisonné en Libye en 2007.
Le colonel Kadhafi était un homme pour le moins complexe et pour le moins incontrôlable. Il avait un bunker, c'est-à-dire qu'il avait une ville souterraine. Donc pas de portable, débrouilleur, pas d'officier de sécurité. Et je me suis retrouvée dans une pièce avec lui. Et voilà, j'ai essayé de trouver un moyen de me faire entendre, parce qu'il n'était pas toujours dans un état très, très clair, et pour essayer de le convaincre de me les laisser libérer.
À travers le parcours de ces 9 femmes de président, on revit l'histoire et l'évolution des mœurs de la Ve République. Élysée, 9 femmes aux marches du palais, c'est un documentaire d'Elisabeth Capniste, à voir ce dimanche à 22h35 sur France 5.
Merci beaucoup Lise Pressac, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Changement de vie pour le prince Harry et son épouse Meghan qui ont décidé de renoncer à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique. On en parle dans l'infomédia du jour avec nos invités dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et c'est l'heure Philippe de l'info média du jour.
Après l'interminable feuilleton du Brexit, voici les Britanniques plongés dans la tourmente du Mexit. Le Mexit, c'est le croisement opéré par les tabloïds de Meghan et de Exit. Car elle s'en va, ou plutôt son couple avec le prince Harry, couple harcelé par la presse à scandale, sur fond d'incompatibilité d'humeur et de règlement de compte à la cour, et qui a décidé de quitter la dite cour. Meghan et Harry annoncent prendre de la distance avec la famille royale. Ils ont publié un communiqué sur leur compte Instagram officiel qui indique que le couple a l'intention de travailler pour devenir indépendant financièrement tout en continuant à soutenir la reine. Décision prise après de nombreux mois de réflexion. Il n'avait échappé à personne que le couple, marié en mai 2018, détonne au sein de la famille royale avec ses codes, ses traditions d'un autre siècle. Et surtout, Meghan, jeune maman, ne supporte plus la pression médiatique et les attaques de la presse populaire qui ne rate jamais une occasion de dénoncer ses enfants gâtés qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Meghan et Harry prévoient désormais de partager leur temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, spécialement le Canada, mais cet exil soulève une question. Quel rôle ont joué les médias dans ce divorce? Les tabloïds en font-ils trop? Et pas seulement eux. Pour nous éclairer, je reçois Philippe Turl. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Good morning.
Good morning.
Ça s'entend, vous êtes britannique.
Voilà.
Et surtout journaliste pour France 24. À côté de vous, Jérôme Caron. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire Point de Vue, spécialiste de la monarchie britannique. Première question. Hier s'est déroulé un événement historique. qu'on attendait en Angleterre, au Royaume-Uni et ici même dans le monde. Depuis un an et demi, les députés britanniques ont enfin voté l'accord de Brexit. Et pourtant, ce matin, la une du Sun, c'est Harry et Meghan avec ce titre « Get Mexit Done », que le Mexit se fasse, que le Mexit se fasse, oui. Un titre, c'est fait pour vendre, pour intéresser les lecteurs. En quoi cette information, Harry et Meghan, touche à ce point les Britanniques? Qu'est-ce qu'elle dit du pays?
Alors vous savez que ça fait plus de 3 ans qu'on est dans le Brexit depuis le référendum de 2016 où les Britanniques ont voté pour quitter l'Union européenne.
Bien sûr.
Il y a une fatigue, mais énorme parmi la population britannique sur ce feuilleton qui n'en
finit
jamais.
J'ai bien compris. Mais là, ils venaient de finir. Ils ont signé hier, ils ont voté les députés. Alors, pourquoi c'est Meghan et Harry qui font la une?
Je vous dis, Boris Johnson a gagné les élections le mois dernier avec une majorité de plus de 80 sièges. Donc, c'était une formalité de faire passer le deal hier. Donc,
d'accord.
Même, il y a une centaine de députés qui sont même parvenus voter pour cette dernier vote avant que ça soit officialisé. Donc, évidemment, on cherche autre chose pour aller monter la conversation.
Alors là, j'ai juste cité le Sun, mais tous les journaux font la une là-dessus.
Voilà, mais même pas seulement aujourd'hui, hier aussi.
Bien sûr.
Et si vous aviez regardé les médias britanniques, les télévisions, que ce soit la BBC, que ce soit Sky News hier, toute la journée, c'était que Meghan, Mexit, pas un mot sur le Brexit, alors qu'il y a eu le vote crucial hier après-midi. Et en temps normal, on aurait passé toute la journée à parler que du Brexit.
Jérôme Caron, pardon.
En fait, c'est un autre feuilleton. Vous aviez le feuilleton du Brexit qui, en effet, a duré 3 ans. Et depuis il y a 20 mois, le mariage de Meghan et Harry a concentré des millions de téléspectateurs qui ont vu ce mariage et qui ont suivi, qui ont été étonnés, heureux, amusé par le choix de Harry.
La somme, ce chiffre hallucinant, 3 milliards de téléspectateurs ont vu à un moment donné l'image du mariage. 3 milliards.
Et donc le feuilleton continue. Les 3 milliards de téléspectateurs suivent la suite du feuilleton où on a vu la naissance de Archie, on a vu les premières frictions avec la presse et Meghan et Harry. Et là, on arrive à un nouvel épisode de la saison 2 de Harry et Meghan avec le Mexit.
Alors ce matin, hier, le Daily Mail a titré « Ils ne l'ont même pas dit à la reine ». C'est vrai ?
Disons,
elle ne l'a pas découvert dans les journaux. Elle n'a pas acheté Point de vue, elle a découvert qu'il se barrait.
Elle lit Point de vue, mais elle ne l'a pas découvert dans
les journaux. Je sais qu'elle le lit, c'est pour ça que je vous le demande.
Non, elle ne l'a pas découvert dans les journaux. En fait, les rumeurs couraient autour des conseillers et de Meghan et Harry sur une envie de Meghan et Harry de changer de statut. Ça, c'était clair. En revanche, ce qu'ils n'ont pas précisé, c'est la date. Elle leur avait demandé simplement d'en discuter avant de rendre leur décision officielle. Et en fait, le prince Charles a appris 10 minutes avant la parution sur le compte Instagram de la déclaration de William et Harry que cette parution avait avoir lieu. La reine avait vraiment demandé à ce qu'il y ait des réunions entre Charles, William, Harry, les conseillers en communication et les conseillers de la couronne pour déterminer quel serait leur nouveau statut et ensuite faire une communication. Eux, ils ont squeezé la réunion et ils ont fait la communication avant.
Je veux dire, ce qui me frappe vraiment dans cette histoire, on pourrait penser que ce sont des gens qui s'intéressent à la vie des people, mais pas du tout. Même le Times, journal très sérieux, journal de référence, dénonce une annonce prématurée, égoïste et malveillante. Je vous lis l'argumentation du Times, la traduction je l'emprunte au Parisien de ce matin. Au Royaume-Uni, écrit le Times, quand vous épousez un prince d'Angleterre, vous épousez 60 millions de personnes, cela fait partie du contrat. Or là, ils ont le sentiment d'être floués. Les gens ont le sentiment d'un caprice. Cette jeune femme a voulu un diadème, une robe longue, vivre la vie de princesse, mais elle refuse maintenant d'en payer le prix.
Vous savez que la famille royale britannique divise encore un peu le pays, mais sur le fond, je pense qu'il y a une personne qui suscite un respect presque universel en Grande-Bretagne, c'est la reine.
Oui.
Et donc quand on touche à la reine, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand on voit les membres de sa famille qui font, pardonnez-moi le mot, mais des conneries, là, la presse, que ce ne soit même pas tabloïd, mais la presse sérieuse...
Non mais attendez, ce n'est pas une connerie, pardonnez-moi, ce n'est pas une connerie que de vouloir s'émanciper de sa famille, ce n'est pas aller à une fête habillée en Asie, comme ce fut le cas une fois. Je ne comprends pas, expliquez-moi, vous qui connaissez bien, pourquoi la vindicte du Times? Pourquoi ils sont aussi sévères?
La connerie, c'est que la reine n'a pas été prévenue. Et donc, dans le protocole britannique, ce qui se passe, comme Jérôme l'a très bien expliqué, c'est qu'on discute, on trouve un compromis, on fasse un accord entre nous et ensuite on publie une annonce officielle. Là, on n'a pas du tout été suivi. Et donc là où les gens en veulent à Harry et Meghan, c'est que tout ça, ça a été préparé visiblement à la va-vite.
Ouais.
Ils ont publié cette annonce sur Instagram hier. La famille royale, comme le reste du pays, a été pris court. Donc il y a... une frustration, je pense, de la part de la reine et de Prince Charles, et même William n'a pas été mis au courant, c'est son propre frère. Ouais. Et donc, on dit, mais ça va pas du tout, ils ont pas du tout joué le jeu, et la reine a 93 ans, c'est quelqu'un qui est très âgé, on peut pas la traiter de cette manière.
Ils l'ont mis dans l'embarras, en fait. Ouais. Ils ont mis la reine dans l'embarras, ils ont mis la personne la plus importante de la monarchie, et peut-être de Grande-Bretagne, dans l'embarras. Deux gamins, entre guillemets, par rapport à l'âge qu'ils ont et à leur âge, ont mis la reine face au fait accompli. Ouais. On ne met pas sa grand-mère face au fait accompli. Quand on est invité à un dîner chez sa grand-mère, ouais, on la prévient 3 jours avant si on ne peut pas venir. On ne la prévient pas la veille ou 10 minutes avant. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, s'il y a une espèce de... C'est un crime de lèse-majesté, quelque part, ce que Harry et Meghan ont fait. Pardon. C'est quelque chose qui ne s'est jamais vu en Grande-Bretagne. De décider soi-même de s'extraire de la famille royale, alors que, comme certains conseillers l'ont dit, on leur a offert le mariage qu'ils voulaient, la maison qu'ils voulaient, le statut qu'ils voulaient, c'est-à-dire que la reine a offert un statut à Meghan qui était celui d'ambassadeur dans un certain nombre de pays d'Afrique et autres. Mmh. Ils ont obtenu tout ce qu'ils voulaient et à la fin ils partent. Les Anglais sont furieux.
Et justement, on parlait des Anglais, que ressent l'homme et la femme de la rue, que ressentent-ils ?
Je pense qu'il y a une incompréhension. Moi, j'ai vu... Ça commence à faire parler dans la presse et aussi dans la rue, hein, cette histoire. Donc, il y a les gens qui ne comprennent pas en disant oui, qu'il s'en aille. De toute manière, Meghan, elle n'est pas le bienvenu. Elle n'aurait jamais dû se marier avec lui. C'est une vulgaire comédienne américaine. Elle n'a pas sa place dans la famille royale britannique. Donc,
c'est un couple
quand même qui n'a jamais fait...
L'unanimité.
L'unanimité parmi le peuple britannique.
Mais parmi le peuple et parmi la presse, on en parle juste après ça, parce qu'ici on est une émission. Oui, nous sommes une émission média.
Dans l'infomédia du jour, on parle du Mexit, la décision du prince Harry et son épouse Meghan de prendre leur distance avec la royauté. Et on continue à en parler dans un instant avec nos invités sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Meghan et Harry, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé mercredi, sans consulter la famille royale, leur volonté de renoncer à leur rôle de premier plan dans la famille royale. Et on en parle ce matin dans l'infomédia du jour, Philippe, avec vos invités. Philippe Turle, journaliste au service anglais de France 24, et Jérôme Caron, journaliste à Point de Vue, spécialiste de la monarchie britannique, évidemment.
Jérôme Caron et Philippe Turle, vous avez lu tous les deux la presse britannique ce matin. Où sont-ils tous les deux tourtereaux? Ils sont au Canada, ils sont ici, ils sont partis.
Alors en fait, ils ont passé 6 semaines au Canada, ils ont passé les fêtes au Canada, ouais. Meghan et Harry sont rentrés en Grande-Bretagne pour 3 jours. Ils ont appuyé sur le bouton nucléaire de ce communiqué. Ouais. Leur fils, quand ils sont rentrés en Grande-Bretagne 3 jours, leur fils, lui, est resté au Canada. Et on a appris ce matin que Meghan venait de repartir rejoindre son fils au Canada. Donc Harry est en première ligne, tout seul, face à la presse et à sa famille, pour essayer d'expliquer sa décision.
Son fils qui a 8 mois, si je me souviens bien. Archie. Meghan, qui a souvent évoqué ses rapports difficiles avec la presse, notamment lors de sa grossesse, est-ce qu'on ne peut pas lui donner raison quand elle dénonce un acharnement médiatique ?
Alors oui et non, parce que au début...
D'abord le oui, ensuite le non.
Alors, d'abord le oui, parce que la presse britannique, surtout tabloïde, est sans scrupules. Et donc, c'est pas seulement elle. Hein. Vous vous rappelez de l'histoire de Diana. C'est pas mieux que cela pour raconter l'histoire de la famille royale britannique. Diana, qui est morte à Paris en 1997, est en poursuivi par la presse après son départ.
Vous ne pouvez pas comparer. Diana avait un amant, ça fait des histoires pour les journaux.
Ce que je compare, c'est l'attitude de la presse. Parce que la presse cherche toujours la petite histoire. Et rien de mieux que la famille royale britannique. Quand on pense à une famille royale dans le monde, on pense à quoi ? On pense à la famille royale britannique. Donc, évidemment, on sait que Meghan étant l'épouse de Prince Harry, c'est quelqu'un qui nécessairement va faire la une de la presse n'importe où vous faites une histoire sur elle. Donc elle est pourchassée. Ça, c'est le oui. D'accord. Et le non, c'est qu'on l'a prévenue quand même avant le mariage en disant faites attention, la presse britannique peut vous démolir, ils vont vous rendre la vie misérable. Et elle a dit, de toute manière, moi je suis comédienne, je m'y connais, je sais de quoi il s'agit, je suis prêt à affronter le défi. Donc elle souffre,
mais elle a été prévenue.
Que ses yeux pour pleurer.
Jérôme. En fait, les deux précédentes petites amies de Harry, qui étaient Chelsea Davy et Cressida Bonas, avaient refusé le rôle de princesse parce qu'elles savaient que la pression était énorme. Camilla Parker Bowles avait fait la même chose. Je pense, moi, que d'abord, les problématiques avec la presse ont commencé lors du baptême, un petit peu avant, mais surtout lors du baptême, quand on n'a pas eu le nom des parrains, ce qui est une tradition dans le protocole britannique, d'obtenir le nom des parrains du baptisé de la famille royale. Et ensuite, que la seule photo qui a été publiée, c'est une photo où on voyait un demi-archi avec un voile sur la tête. On ne voyait pas grand-chose. Les médias britanniques britanniques ont besoin et ont toujours eu les photos.
Mais attendez,
à la
je crois me souvenir, c'est peut-être en sous-texte, peut-être les choses n'ont pas été dites de cette manière, mais d'abord elle n'est pas britannique mais elle est américaine. Deuxièmement, elle est métisse, elle est afro-américaine. Ensuite, si je me souviens bien, elle a été divorcée, ça avait déjà joué. Déjà, quand l'histoire a commencé, elle se faisait tailler dans la presse britannique.
Oui, oui, mais.
Ça n'a pas démarré avec le baptême.
Non, non, ça n'a pas totalement démarré avec le baptême, mais à partir du moment où elle s'est mariée avec lui, les médias britanniques ont supposé qu'elle allait suivre le rythme et le protocole imposé à son nouveau statut. Ce qu'elle a refusé de faire. Je pense qu'elle a surestimé ses capacités de résistance face à, en effet, la déferlante de la presse britannique et qui sont des médias qui sont extrêmement puissants, extrêmement présents et qui ont des tirages fabuleux et qui ont donc des moyens fabuleux, et qu'elle a sous-estimé vraiment sa capacité à pouvoir résister à tout ça.
Et est-ce qu'il n'y a pas une part de sexisme ? D'une certaine manière, la presse se venge. L'utilisation du terme « Mexit », ça veut dire « exit », elle s'en va et c'est Meghan. Ça veut dire que Meghan est la responsable. Ils auraient pu l'appeler le « Harixit ». Mexit,
oui,
ça veut dire que c'est elle la méchante, c'est comme ça qu'on l'entend.
Oui.
Vous qui êtes anglophone, est-ce que vous l'entendez comme moi ?
Oui, un peu. Je pense que c'est pour faire un jeu de mots sur Brexit, Mexit, c'est plus
d'accord.
facile que Harry Exit, mais c'est vrai que c'est plus facile de critiquer Meghan que Harry. Et je dirais que. Elle n'a jamais été complètement acceptée par le peuple britannique. Donc évidemment, là aussi, vous avez une raison de la critiquer, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas, donc ça fait vendre des journaux, et on va jouer le jeu sur son nom, et ça fait vendre. Et le problème, vous savez, Philippe, ce qui va arriver, c'est qu'ils disent, bon, très bien, on est fatigué, on a envie de se retirer de la vie publique, on va aller s'installer en Amérique du Nord, mais la presse va les poursuivre là-bas, parce que
oui.
c'est pas un couple britannique, c'est un couple qui est mondialement connu. Là où ils vont, les gens vont avec eux. Et Harry et Meghan, ils touchent des zones, des personnes que les autres membres de la famille royale ne touchent pas.
Ouais.
Donc, ils sont pas à l'abri au Canada, aux États-Unis ou ailleurs. Ça serait aussi difficile pour eux là-bas qu'en Grande-Bretagne.
Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Parce que j'ai dit, ils ont dit qu'ils voulaient travailler. Parce qu'il y a aussi cette histoire d'impôts.
Alors,
on leur a beaucoup reproché à la famille royale, aux Royals, de dépenser l'argent public. Ils vont vraiment travailler ?
Disons qu'ils vont développer d'autres activités.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que, par exemple, Harry et Meghan ont acheté le nom Royal Sussex et le nom de propriété industrielle sur le t-shirt, etc. etc. Ça, c'est une première phase.
Ils vont faire fructifier cette chose-là.
On pourrait imaginer ça.
Mais ils ne vont pas aller travailler avec des horaires de bureau, des collègues et une machine à café.
Je ne pense pas.
Ça me fait rire.
Oui, je ne pense pas. Il y a des princes et des princesses qui travaillent. Les princes belges travaillent, des princes danois travaillent aussi. En ce qui concerne les Anglais, les précédents, c'était Edouard, le dernier fils de la reine, qui avait essayé de lancer une maison de production qui a été une catastrophe industrielle totale. Voilà. Là, il semblerait que, d'après ce que dit la presse anglaise, il serait présent à certains dîners. Vous pouvez vous faire payer lorsque vous êtes présent à un dîner, vous pouvez donner des interviews, on peut imaginer des livres, on peut imaginer tout un tas de choses. En revanche, ce sera une première dans l'histoire de la monarchie britannique que de voir un prince vendre son histoire d'une manière ou d'une autre, ou vendre son statut de prince d'une manière ou d'une autre.
Est-ce qu'ils vont continuer, selon les infos que vous avez, à percevoir l'argent de la reine ?
Non.
Alors, oui, non.
Enfin, oui et non, pareil.
L'argent de la reine, non. Mais l'argent qui vient de son père, oui. Donc ça va, si je ne me trompe pas, c'est à peu près dans les 5 millions, entre 5 et 6 millions d'euros par an.
Ouais.
Division 2 entre William et Harry. Là, ils le touchent pour le moment, disent-ils, jusqu'au moment où ils trouvent du travail. Mais là aussi, c'est un sujet à polémique, parce qu'on dit, bon, la moitié de l'année, ils ne sont plus là. Et est-ce qu'on leur donne encore tout cet argent ? La moitié de l'année, ils ne sont pas là. Est-ce qu'ils ont le droit de vivre dans cette maison, Frogmore Cottage, qui a coûté quand même 2,5 millions de livres à remettre en état à leur désir ? Ils ne sont pas là. Où est-ce que ça s'arrête ? Et à quel moment est-ce qu'ils vont couper les ponts financiers avec la famille royale ?
Je vais vous le dire. De toute façon, cette histoire ne s'arrête pas. Ça sera quoi la une de point de vue ?
Ce sera sur Meghan et Harry, ça sera de toute façon, mais il y a des informations chaque jour.
Ouais.
Pour compléter ce que disait Philippe très rapidement, sur le Frogmore Cottage, il semblerait qu'Harry puisse éventuellement, qu'il réfléchisse à lui faire payer un loyer,
ouais.
Et ensuite il a aussi l'héritage de sa mère qui est de 20 millions de livres.
Dernière question, ils ont dit qu'ils voulaient désormais travailler avec la presse, mais avec des organismes, des journaux choisis. Vous y croyez à ça, est-ce que c'est réaliste ?
c'est ce qu'ils ont déjà commencé à faire sur leurs interviews, notamment où ils ont choisi des journalistes qui n'étaient pas du Sérail, qui étaient des relations à eux. Il y a eu la fameuse interview qui a eu lieu en Afrique du Sud où Meghan expliquait qu'elle était triste, que personne ne lui avait demandé comment elle allait, qui a été réalisée par un journaliste qui n'était pas du...
Mais est-ce que quand on fait ça, on n'ouvre pas la porte à quelque chose de pire? C'est encore plus de paparazzi.
Alors, moi, j'y crois pas, honnêtement, parce que on peut beau dire c'est ce qu'on veut, mais en pratique, on contrôle rien. Et si les journalistes ont envie de se cacher dans les orbes ou dans les poussettes de bébé pour les filmer en cachette, ce qui est le cas de beaucoup de journalistes étrangers, parce qu'avec les journalistes britanniques, il y a une espèce d'accord de gentleman pour ne pas plus faire ce genre de pratique. Mm-hmm. Mais au Canada, cet accord, évidemment, ça ne marchera plus. Donc ça ouvre la porte à n'importe quel abus de la presse. Et je pense qu'ils auraient beaucoup de mal à contrôler cela.
Merci beaucoup, Philippe Turle, journaliste britannique. Ça s'entendait un tout petit peu à France 24. Et merci à Jérôme Caron, journaliste à l'hebdomadaire Point de vue, spécialiste de la monarchie britannique. Merci de vos éclairages.
Notre prochain invité, le journaliste Pascal Perry. Il vient nous parler des deux rendez-vous qu'il présente sur LCI et on l'accueille dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, ce matin, Philippe, on accueille le journaliste et présentateur Pascal Perry.
Bonjour Pascal Perry.
Bonjour.
Vous êtes déjà en train de prendre des notes alors que je n'ai pas commencé à poser la moindre question. J'aime beaucoup cette attitude. Vous incarnez depuis la rentrée la tranche 20h-21h sur LCI du lundi au jeudi. Merci d'être avec nous en direct alors que vous êtes en week-end là.
Non,
vous avez l'après-midi.
J'ai toujours une émission le vendredi après-midi.
De 16 à 17h.
Oui, qui est une émission d'économie qui, elle, se fait 5 jours sur 7.
Émission qui marchait très très bien. Vous avez doublé l'audience de la case, peut-être même plus que doublé. Émission qui marchait tellement bien qu'on vous a donc donné une deuxième heure dans la journée, donc dans la soirée. Ça s'appelle le Périscope, c'est votre nom, Péri, P-E-2-R-I. C'est le Périscope de l'actu. Avoir une émission à son nom, c'est donné à très peu. Il y a Bruce Toussaint, il y a Pujadas, il y a Zemmour et Nolo. C'est vous qui avez demandé que ce soit votre nom?
Pas du tout, non. Très modestement, je n'aurais pas imaginé d'ailleurs un titre de cette nature. Jamais je n'aurais osé le proposer.
Ouais.
Ça a été proposé par les dirigeants de la chaîne. J'ai trouvé que ça correspondait assez bien parce qu'au fond, le périscope, qu'est-ce que c'est? Le périscope, c'est un outil qui permet de voir les choses, de les voir assez clairement et assez nettement. Et c'est quand même l'ambition de ces émissions.
Et à 360 degrés?
À 360 degrés, c'est un peu la signature. C'est à 16h, toute l'actualité économique, sociale, fiscale, environnement, transport, tous les sujets du quotidien. C'est l'économie éprouvée par ceux qui la vivent. C'est aussi l'économie par ceux qui la pensent. Et puis à 20h, c'est un périscope de l'actualité un peu plus large. On parle aussi d'économie quand c'est nécessaire. Hier soir, j'avais par exemple
Hier soir. Oui. Laissez-moi raconter. Mais alors, ce qui m'a vraiment frappé justement, dites qui vous aviez à 20h.
Alors, j'avais Frédéric Sèvres, qui est le négociateur de la CFDT sur les retraites. Ouais. Puis j'avais François Omeril, le président des cadres, qui était dans le défilé hier. Donc c'est...
Alors pourquoi il n'y avait rien sur l'affaire qui mobilise tout le monde, et on vient de l'entendre pendant une bonne demi-heure, Harry et Meghan? Pourquoi ce choix de sujet aussi austère et rigoriste? Je ne vous le reproche pas, je vous demande pourquoi.
Bien, parce que d'abord je pense que c'est plus concernant, je pense que ça intéresse plus ceux qui regardent la télévision à cette heure. C'est un choix.
Ah, vous pensez? Alors moi je pensais exactement l'inverse.
Eh bien,
je pense que ça intéresse plus les gens de savoir l'histoire, à tort, de savoir ce qui se passe dans le mariage Meghan, Harry, est-ce qu'ils vont partir, ne pas partir, mais que c'est un choix édito de votre part.
Moi, je pense que l'exaspération des Français est plus grande, probablement, parce que au quotidien, on vit depuis un petit peu plus d'un mois et demi un mouvement social qui est peut-être passionnant, mais qui a des conséquences dans la vie des Français. Les décisions des petits-enfants de la cour d'Angleterre, c'est quand même assez lointain et symbolique, et ça ne mérite pas, de mon point de vue, de figurer dans le périscope de l'actu.
Hier, votre premier invité, vous l'avez dit, c'était Frédéric Sèvres, secrétaire national de la CFDT. En 3 minutes, vous lui avez posé 3 questions qu'on entend rarement, ou alors pas en ces termes, c'est-à-dire du concret.
Frédéric Sèvres, donc, je rappelle que vous êtes le négociateur de la CFDT. Qui était dans la rue là, cet après-midi? Si je pose la question différemment, est-ce que ça n'était pas tous ceux qui ont des intérêts catégoriels à défendre? Majoritairement, bien sûr, il y avait des salariés du privé. Bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas à l'éducation nationale, à la SNCF ou à la RATP. C'est évident. Mais malgré tout, si on veut être vraiment honnête là, est-ce que c'est pas quand même un défilé des égoïsmes catégoriels?
Défilé des égoïsmes catégoriels. Autre question, 1 minute plus tard.
Vous êtes professeur d'économie, c'était votre métier. Vous avez, comme moi, fait des études d'histoire aussi, l'histoire de la pensée économique. On a été marqué par tout ça. Comment est-ce qu'on peut justifier aujourd'hui qu'il y ait des régimes à part qui soient financés par d'autres?
Le type ne sait pas trop bien comment répondre. Et 1 minute plus tard, il y a cette question.
Vous êtes, comme je le disais, professeur d'économie. Vous savez comme moi que l'équilibre financier, c'est utile, que la culture du déficit, c'est jamais tout à fait bon. Comment pouvez-vous vous opposer à cette idée que le régime soit équilibré ?
Il a quand même dit qu'il ne s'y opposait pas. Oui, mais c'est vrai. Comment vos invités prennent ce genre de questions ?
Bah, d'abord, je les pose avec bienveillance. C'est-à-dire que dans le contact, y compris dans l'incarnation, c'est une rencontre aussi entre deux personnes. Ce n'est pas une interview, c'est un échange, Périscope. Et donc, ils sont parfaitement informés que ça peut être interactif. Les questions sont cash, mais je respecte toujours le point de vue des autres. Je ne cache pas qu'il y a des opinions qui s'expriment. C'est le frottement des idées dans le respect, dans la bienveillance et sans violence.
Hier, Frédéric Sève, quand même, 3 minutes plus tard, était quand même un peu déstabilisé par vous.
Si vous bloquez le niveau de, enfin l'augmentation pardon du niveau de vie de pardon si vous bloquez vous sous-revalorisez les pensions comme ça a été fait de manière générale.
Bon, comme on dit dans le métier, il rame un peu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur de venir dans votre émission, comme il y a des gens qui veulent pas aller chez Jean-Jacques Bourdin par exemple?
Il y a des gens en tout cas que je n'inviterai pas.
Ah oui, qui?
Je ne citerai pas de nom.
Alors, mais
il y a des gens qui, à mon sens, ne sont pas au niveau. Je ne fais pas une émission de gueulard, pour dire les choses très clairement. Je fais une émission...
Et c'est drôle, attendez, je vous interromps. Vous n'étiez pas, vous n'avez pas démarré aux Grandes Gueules?
Si, mais...
Et donc, vous voulez plus de gueulard?
Les Grandes Gueules, c'était toujours bienveillant.
Ouais. Non, mais dans les Grandes Gueules...
Bien sûr.
Ontologiquement, il y a des gueulards.
Bien sûr, il y en a. J'y suis resté pendant très longtemps.
Ouais.
Je ne regrette d'ailleurs aucune de ces années passées dans cette émission.
Mais plus de gueulards maintenant, c'est fini
pour
vous.
C'est un autre temps. Parce qu'on est dans un débat sérieux. C'est une émission d'économie à 16h. À 20h, on parle de la politique, on parle de la société, on parle de sujets qui sont eux-mêmes extrêmement sérieux, qui méritent autre chose que des coups de gueule, qui méritent une vérité. Et je pense que le débat aujourd'hui en France, il pêche précisément parce qu'il n'est pas souvent documenté, il est très émotionnel. Et moi, je veux me détacher de l'émotion. Je veux rentrer dans la raison. Les questions que je pose, les questions que j'aborde sont des questions sérieuses qui concernent les Français, leur vie au quotidien. Ça mérite autre chose qu'un débat pleurnichard.
Comment vous dire, je peux absolument pas être opposé à ce que vous venez de dire. Restez avec nous.
Notre invité ce matin est le journaliste Pascal Perry pour nous parler de ses deux émissions sur LCI, Périscope et le Périscope de l'actu. On continue à en parler dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Pascal Perry est notre invité ce matin pour parler, Philippe, des deux rendez-vous qu'il présente sur LCI, Périscope de 16h à 17h du lundi au vendredi et le Périscope de l'actu de 20h à 21h et là c'est du lundi au jeudi.
Notre émission s'appelle Culture Média, il y a des médias, il y a aussi de la culture et on va écouter un peu de musique. Alors je précise que c'est pas un reportage sur le Hellfest ou le retour de Metallica, c'est le générique de votre émission. Pourquoi du hard rock?
Ça donne la pêche, non?
Ouais, bien sûr, mais après, pour parler des retraites...
Bah oui, mais l'économie c'est vivant, les retraites c'est un sujet sur le vieillissement, mais on peut l'aborder avec de l'énergie, on peut l'aborder positivement. Après tout, le vieillissement de la société c'est plutôt une conquête de notre humanité, c'est une conquête de la médecine, c'est une conquête du progrès. Et donc moi je vois les choses, je vois l'économie, pour moi l'économie c'est un verre qui est à moitié plein, c'est pas un verre qui est à moitié vide. On doit pouvoir en parler de façon pédagogique, de façon ouverte. Il y a un espèce de rideau de fumée entre les Français et l'économie. L'ambition de mes émissions, c'est notamment à 16h, c'est d'essayer de le dissiper précisément. Expliquer qu'au fond l'économie c'est quelque chose de relativement simple, il y a des process, ces process on les découvre, j'invite des acteurs concrets de l'économie, des dirigeants d'entreprise, des journalistes, des experts, et il y a toujours une volonté de pédagogie. Je veux qu'on sorte de cette émission en ayant appris au moins quelque chose.
Il y a une différence entre votre émission et la plupart des émissions d'économie, c'est que vous donnez votre avis.
Oui, parce que je ne suis pas tout à fait journaliste. Moi, j'ai été professeur d'économie, j'ai dirigé des entreprises pendant très longtemps, pendant plus de 25 ans de ma vie. J'ai donc vécu l'économie de l'autre côté. Je donne un avis qui est un avis plutôt libéral, mais c'est un libéralisme assez ouvert. Dans le libéral, il y a liberté pour moi. Mmh. Il m'arrive de recevoir des dirigeants syndicaux qui sont à l'opposé de mes convictions, mais à chaque fois, on pose sur la table nos différends, on les aborde de façon pragmatique, on se quitte toujours bons amis, il n'y a pas de conflit, il y a des différents, il y a, vous savez, quelque chose qu'on doit peut-être réhabiliter, la controverse, qui est la controverse productive, féconde.
Comment sont les audiences le soir? Je l'ai dit l'après-midi, vous avez plus que doublé les parts de marché de la case, et le soir?
Bah écoutez, je fais cette émission depuis lundi. Ouais. On a bien démarré, plutôt bien démarré, on a de vraies perspectives. Ça se construit dans le temps, ça, en effet, et donc je suis très heureux de pouvoir remettre les compteurs à zéro, parce que c'est ce que j'ai fait il y a 18 mois, à 16h. Je remets les compteurs à zéro à 20h, et ben, nous sommes dans une stratégie de conquête, et conquête par l'intérêt.
Concurrence est rude, il y a l'arrivée de Zemmour sur CNews qui les a boostés. Quel est votre sentiment sur sa présence quotidienne ?
Écoutez, c'est un choix que je n'aurais pas fait à titre personnel. Je vous avoue que j'écoute peu, et voire pas du tout, parce que j'ai autre chose à faire à cette heure-là. Moi, je m'intéresse à des sujets qui sont des sujets non émotionnels. Je m'intéresse à des sujets raisonnables. Je plaide pour réintroduire de la raison dans le débat public. Et donc, n'attendez pas de moi que j'approuve le contraire.
Merci beaucoup, Pascal Perry. Je rappelle le Périscope. Merci, Metallica. C'est qui ? C'est vous qui avez choisi le générique ?
Pas du tout. Je n'ai choisi ni le titre ni le générique. Je me contente de produire le contenu.
D'accord. C'est la musique que vous écoutez chez vous ?
Oui, j'écoute du rock, moi. Oui, j'adore le rock.
C'est vrai ? Oui, vous avez un choix ?
Oui, j'ai été un enfant.
Il me reste 5 secondes.
John Fogerty.
J'adore, le mec de Creedence.
Voilà.
Extraordinaire. Le Périscope, 20h-21h, du lundi au jeudi sur LCI. C'est le Périscope Info. Et le Périscope tout court, c'est de 16h à 17h. Et il sera également aujourd'hui en direct. Merci d'avoir été avec nous en
Merci.
Direct.
Dans un instant, c'est notre heure culture. Mais juste avant, place aux digressions des rats d'auteur avec le duo Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus.
Gilles Gaston Dreyfus, Gilles.Gaston Dreyfus.
Toi, c'est Stéphane de Groot.
Toi, tu dis de Groot.
Une vraie question. En France, on dit de Groot.
Oui.
Donc,
qu'est-ce que vous disiez, du coup?
Bah, du coup, je...
Rien. Bonjour.
Bonjour, Stéphane.
Vendredi 10. Il y a des gens qui sont nés aujourd'hui.
Est-ce que vous avez une notion de l'heure qu'il est, là, maintenant?
Il est 9h50.
Du matin?
Ou du soir? Vous prenez ce que vous voulez, hein.
Déjà, énormément de gens sont nés ou sont morts.
Ah ouais.
C'est extraordinaire de mourir.
De naître aussi.
La naissance, on s'en souvient moins. On se souvient bien de sa mort.
On se souvient bien de sa mort.
Ah oui. Je vous garantis que vous vous souviendrez de votre mort.
Je me souviendrai de que vous venez de dire. Ben, la mort crée des souvenirs, c'est bien connu. Dans les morts, ben, y a Chanel.
Chanel.
Parfait. Chanel est dans nos vies. Chanel est dans nos vies.
Oui.
Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous auriez pu dire. C'est une créatrice controversée parce qu'elle a un peu flirté avec les Allemands.
Je vais plutôt avoir comme souvenir qu'elle a apporté les...
On voit bien que Chanel, ça vous inspire pas. Buffalo Bill est mort aussi aujourd'hui.
Ah, il est mort.
C'est pas un restaurant. Hein. Samuel Colt aussi.
Ah, très bien.
Chaque fois, vous dites ah.
Mais non, mais je veux dire Colt, Weston, Smith.
Smith et Wesson. Ils inventaient les chaussures.
Smith et Wesson, c'était des. Hein?
Je vais dire Weston.
Ah oui, oui. C'est Smith et Wesson.
Non, c'est pas Smith. Smith et Wesson.
Smith et Wesson, mais
pas Weston. Smith et Wesson.
Oui, Wesson. Et le Beretta, Kalachnikov, Winchester.
Winchester, vous dites.
Je dis Winchester.
Une Winchester.
Mais vous m'avez compris pourtant.
Et alors le Colt, c'est un revolver.
C'était Monsieur Colt.
Samuel Colt.
On pourrait faire un petit jeu de tous ces noms. Par exemple, poubelle. Parmentier. Votre nom vient d'où, Groot de Groot? En venant à Bruxelles, j'ai vu un village qui s'appelait Groot de Groot.
Groot de Groot.
Groot.
Sur quelle route?
En venant de Bruxelles.
Groot de Groot.
Non, Groot.
Vous avez pris quelle route?
Il n'y a pas une ville qui s'appelle Groot?
Pas du tout.
Ah bon?
Je me demande bien par où vous êtes passé, par des chemins de traverse, comme d'habitude. Je voulais terminer par un truc intéressant. David Bowie, il est mort.
Il est mort, David Bowie?
C'est une vraie surprise.
Non, mais je veux dire, il est mort aujourd'hui.
Il est mort un vendredi 10.
Bah, je ne sais pas. Vous
ne saviez pas que David Bowie était mort?
Non.
Prince est mort aussi, vous le saviez, ça?
Oui, ça, je sais.
Michael Jackson.
Et John Wayne également.
Il ne chantait pas John Wayne.
Chantait l'Ouest américain.
Il faisait déchanter l'Ouest américain. Ouais. John Lennon, vous savez qu'il est plus là. Hein.
Zizi Jammer non plus.
Qui ça?
Zizi Jammer.
Jammer.
Oui.
Vous pouvez dire Jean-Mer, hein, si vous voulez. Charles Bronson aussi.
Non.
Ben si, Charles Bronson.
Non, il y a des gens immortels. Bronson en fait partie.
Tolstoy est mort. Est né. Tolstoy
ah,
est né.
Il est né, mais il est mort aussi.
C'est Tolstoy en même temps. Hein. Frank Sinatra Jr. aussi. Tous ces gens qui ont le même nom qu'une personne connue, ça doit être difficile à porter. Comme vous avec Dreyfus en fait. À demain, Gilles. Vous avez fait beaucoup de E et de A. Voilà.
Je vais traverser votre village, le Grandbourg.
Vous m'appelez Grandbourg. La porte de Grandbourg. Ah, à lundi, Gilles.
Bon week-end, reposez-vous bien.
C'était les rats d'auteur avec Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus, feuilleton quotidien que vous retrouverez lundi à 9h55 et en podcast sur europe1.fr.
Europe 1 Culture Média.
Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. On va parler culture avec Bérangère Krief. Elle s'apprête à monter sur la scène de la Gaîté Montparnasse pour son spectacle intitulé tout simplement Amour, le sujet préféré de Bérangère. Et avec beaucoup de questions, comment passe-t-on des papillons dans le ventre aux bourdons dans la tête? Est-ce qu'on peut se faire des films et se prendre des vents en série? Ça oui, elle s'en prend des vents. Et pourquoi quand on donne son cœur, on finit par se prendre la tête? Bonne question. Hélène Manarino nous donnera son, pas son avis, mais son portrait inattendu dans quelques instants. Et puis dans les indispensables, on va parler des expositions phares de 2020. 2020. Magnifique programme avec notre guide Louise Bernard, Matisse, Cézanne, Turner, des pharaons ou encore l'ouverture d'un tout nouveau musée d'art contemporain à Paris et puis de la littérature avec un très beau roman découvert par Nicolas Carreau.